France Culture.
Un jour, il s'assied sur un banc et tout d'un coup, il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus où il habite, il ne sait plus rien. Il ne sait plus s'il a envie de se lever pour marcher, s'il a envie de manger, s'il a envie de boire, il ne sait plus rien. C'est entrer dans le néant avec la conscience qu'on est dans le néant. Ça lui a duré, je crois, 48 heures. On l'a emmené à l'hôpital. On dit, qui êtes-vous? Je ne sais pas. Alors, les gens ont trouvé sur lui des papiers d'identité. Vous vous appelez Carole, Jean, vous habitez. Ça ne lui rappelait rien du tout.
J'appartiens au silence, à l'ombre de ma voix, au mur nu de la foi, au pain dur de la France.
Et il avait marché dans le noir, dans la nuit.
J'appartiens au retour à la porte fermée. Qui frappe dans la cour? Qui fredonne la paix? L'aube nourrit la terre à la source du feu.
Une nuit qui apparemment devenait de plus en plus épaisse, de plus en plus, non pas terrifiante, mais asphyxiante.
J'appartiens au ciel bleu qui souffre sur la pierre.
Qui lui volait tout ce qu'il avait pu avoir d'agissant en lui. Et il est arrivé à écrire ça. C'est difficile à décrire. Et il l'a écrit avec une simplicité. C'est beau, c'est grand. Je me dis parfois qu'il a été choisi, que c'est quelqu'un d'un peu... C'est un mutant. Il ne vient pas d'une autre planète, il vient de la nôtre. Mais d'un endroit totalement ignoré de tout le monde. Un endroit que lui seul a connu. Et puis il est venu parmi nous, et puis il a raconté ce qu'il avait vu, puis on n'a rien compris.
Je ne comprends pas pourquoi moi, je suis. Pourquoi moi, à travers des milliards de siècles, je suis. Je suis et je disparaîtrai après, comme un grain de poussière, comme une cendre éparpillée. Je ne serai rien du tout.
Je vous entends, Jean Carole. Vous êtes une sentinelle, un guetteur. Un oiseau dont le chant est tissé de silence et de mots. Ce n'est pas la mer. Poème de la nuit et du brouillard. J'écrirai l'amour des autres. Lazare parmi nous. Les mots sont aussi des demeures. Poète, romancier, cinéaste, scénariste, vous avez écrit une œuvre à la fois inquiète et généreuse, libre et lumineuse. Les corps étrangers, le droit de regard, Muriel, le coup de grâce, vous êtes né deux fois. L'une en 1910, la seconde à la libération du camp de Mauthausen-Gusen. Vos textes sur l'expérience concentrationnaire nous invitent à une vigilance quotidienne contre toutes les nuits et tous les brouillards. Éditeur également, vous avez permis à de nombreux jeunes écrivains de livrer leur lave brûlante. Histoire d'une prairie. Sans cesse, vous avez illustré ces mots. Poésie journal. Mais oui, j'écrirai. Les enfants pillards. Et personne ne m'en empêchera. Vous écrivez et nous vous écoutons. Jean Carole, 1910-2005, un poète en résistance, un documentaire de Capucine Rua et Angélique Thibault.
Jean Carole est né le 6 juin 1910. Alors il est né dans une famille bourgeoise...
Michel Pateau.
Pour autant pas...
Biographe.
Collet Monté.
Petit-neveu de Jean Carole.
Il vénérait sa mère, il avait des rapports assez distants avec son père. Son père était chirurgien-dentiste. Son père, quand il est revenu de la guerre 14, il s'est enfermé dans une espèce de mutisme. Et alors donc, avec Jean, ils avaient beaucoup de mal tous les deux à communiquer. Et puis alors, bon, Jean était destiné un petit peu, comme tous les garçons de bonne famille de cette époque-là, à faire carrière dans le droit. Alors, il a fréquenté le bon lycée de Bordeaux, etc. Et c'est là qu'il a fait connaissance de son grand ami Jacques Dalléas. Avec qui il faisait des longues promenades sur les quais de Bordeaux. À cette époque, il y avait des bateaux. Alors ça, c'est les départs inassouvis. Et il se voyait une carrière, il se voyait un destin, comme lui, c'est-à-dire partir. Il crevait d'envie de prendre ses grands trois mâts qui partaient, là, comme ça.
Depuis l'enfance, je suis toujours en partance, je vais je vis contre le cours de ma vie.
Il pouvait se passer des aventures, mais nous ne le savions pas. C'est toujours aussi le côté clandestin d'une certaine bourgeoisie bordelaise, où il se passait beaucoup de choses.
Un bateau dans le cœur, un avion.
Les crépuscules d'été à Bordeaux, avec la criaillerie des martinets dans le ciel, et l'arrivée des bateaux est une chose exceptionnelle. Et donc, nous vivions jusqu'à la nuit autour des bateaux. Nous étions presque des vagabonds autour des bateaux. Et bien souvent, il m'est arrivé, quand j'avais 16 ans, d'aller trouver un capitaine de cargo pour lui demander...
Pour vous
oui.
Comme le grand-père qui s'est embarqué comme mousse pour aller en Amérique.
Et qui a fait la guerre de sécession, qui a été dans l'armée nordiste, heureusement, d'ailleurs, j'avais tout de suite regardé dans quelle armée il s'est trouvé, et qui, en remerciement, a reçu 5000 hectares de terres américaines qui n'est autre que Los Angeles.
Il était très très curieux, il aimait ouvrir les malles, se promener dans les greniers. Et quand sa mère jouait du piano, il se mettait sous le piano, de façon à ce qu'on ne le voit pas. Enfin bon, mais c'est comme ça, une jeunesse très aux aguets, je dirais. Curieux de tout.
Une jeunesse avec un frère qui est très important pour lui.
Ah, exactement. Alors Pierre, son frère Pierre, qui l'adorait, qui était son aîné. Mais alors Pierre, malheureusement, est mort en déportation. Et Jean a eu énormément de mal à s'en remettre après la libération des camps. Voyant que son frère n'était pas revenu, pour lui, ça a été épouvantable.
Il a écrit un très beau texte, un très beau roman qui s'appelle « Les enfants pillards » en 1978, où il évoque son enfance. C'est une enfance au bord de la mer, et c'est une enfance assez particulière, celle d'un enfant de la Première Guerre mondiale.
C'est ça. À la fin de la guerre, il avait 7 ans, 8 ans. Et il passait ses vacances vraiment, mais d'une manière sauvage. Les parents n'étaient pas là, les gamins avaient la bride sur le cou, ils étaient tous très peu surveillés. Et Jean, il y a une chose qui l'a énormément marqué, à Lacanau justement, c'était... Alors Lacanau, il faut s'imaginer, c'est une immense plage avec des rouleaux où la mer est dangereuse, sauvage. Et là, il voit avec ses cousins et ses petits copains de l'époque, donc ils ont 7 ans, 8 ans, il voit le corps d'un officier de marine ballotté par le ressac, comme ça, au bord de la plage. C'est le premier mort qu'il voit. Enfin, c'est pas n'importe quel mort, c'est un mort de la guerre. Hein. C'est quelque chose qui le terrifie. Et ils ont des bâtons et ils s'amusent à pousser ce cadavre comme ça, à le remettre à l'eau. Ils jouent avec, quoi.
J'ai toujours eu des corps étrangers dans mon corps. À 3 ans, ce fut une aiguille que j'avalais. Elle ressortit par la cuisse un jour, comme s'il m'était poussé une épine. Mes parents furent effrayés et n'osaient retirer l'aiguille dressée. Bien sûr, cette scène se passe à la campagne. Les aiguilles sont rares. On les a enfilées par rang de taille dans un bout de feutre. Un jour, elles rouillent et personne ne peut plus les enlever. À 7 ans, ce fut un ténia qui vint se loger dans mon intestin. Il nous occupa beaucoup. Je dépérissais à vue d'œil. À la campagne, c'est mal compris. Les bêtes doivent rester dehors. La grand-mère me regardait comme un être qu'elle ne reconnaissait pas.
Alors, il dit qu'il commence à écrire à 11 ans des poèmes, mais de fait, il est très précoce.
Xavier Houssin, qu'il trouve écrivain et journaliste.
Dans une famille où, ma foi, le livre et la poésie, a fortiori, est pas très bien reçu. Enfin, en gros, c'est une perte de temps. Et donc, il va préparer son droit, il fera pas grand-chose d'ailleurs. Il deviendra bibliothécaire à la Chambre de commerce. Voilà. Mais très vite, il va se mettre à créer des revues, à à écrire de manière tout à fait conséquente jusqu'à un premier recueil qu'il publie alors qu'il a 25 ans, qui est « Ce n'est pas la mer ». Et puis en même temps, il va aussi nourrir, j'allais dire, cette vocation poétique et ce besoin d'écriture poétique. Il va le nourrir avec une correspondance extrêmement abondante avec les écrivains qu'il admire. Alors les écrivains qu'il admire, c'est Joseph Delteille, c'est Eugène Dabi, c'est Cocteau, c'est Francis Jammes, qui lui est très proche aussi, c'est Salmon, et c'est surtout, enfin surtout, c'est beaucoup Supervielle.
Et alors donc, il commence à écrire ses poèmes et les publie dans une revue qu'il a créée avec Jacques Dalléas, son ami Jacques, qui s'appelle « Abeilles et pensées ». Et puis après, il y aura les Cahiers du fleuve. Les romans vont venir beaucoup plus tard. C'est un poète avant tout.
Entrer en poésie comme on entre en religion, vous comprenez? C'est exactement pour moi la même chose. Et comme j'étais à Bordeaux, dans une ville qui était en même temps très lyrique, j'étais en état d'escale, j'attendais continuellement que le mot me mette le feu au jou, enfin, en quelque sorte, vous comprenez?
C'est un oiseau.
Jean Cayrol, il était petit, il était menu, il est l'image même de la fébrilité.
Il est là comme ça, il est là, hop.
Il était fébrile dans son regard.
On le prend, toc, il est
parti. Il était fébrile dans ses gestes. Et il était comme une espèce de sémaphore. Il était en appétit de tout, à la recherche de tout, il captait tout. Par son regard, par sa parole empressée, il n'avait pas le temps parce qu'il était en urgence.
À partir de 1935, il s'est passé beaucoup de choses. Et après 1935, déjà, les premiers juifs allemands passaient par Bordeaux et prenez les bateaux pour partir vers l'Amérique du Sud.
C'était des signes.
C'était des signes avant-coureurs. On sentait la catastrophe arriver, mais on ne savait pas au juste. On avait, si vous voulez, le pressentiment qu'une guerre pouvait arriver, mais on ne savait pas laquelle. Même dans ce lieu préservé qui était le Sud-Ouest, dans lequel, au fond, rien n'arrivait, les nouvelles arrivaient que d'une manière lointaine et d'une manière presque émerveillée, puisque je continuais avec Jacques Dalléas et tous ces poètes à travailler. Et à ce moment-là, qu'arrive commencer à traduire la colonie pénitentiaire et commencer à faire des traductions de Kafka. Bordeaux était la plateforme de la guerre d'Espagne.
Oui.
La nuit, je voyais cette espèce de va-et-vient de camions entre l'Espagne républicaine et la France. Et je vivais ça. D'autre part, il y avait le camp de Gurs, qui n'était pas très très loin, où on mettait les Espagnols, parce que nous avons eu un camp de concentration, il ne faut pas l'oublier, qui s'appelait le camp de Gurs avant la guerre en France. Oui. Donc tout de suite...
Vous étiez aux portes même.
Nous étions aux portes même. Et à ce moment-là, ce qu'on écrivait ne pouvait être que... peu à peu, un reflet de ces ténèbres qui commençaient à obscurcir le ciel adorable de notre sud-ouest, le ciel bleuissant avec les martinets.
Il a été en résistance contre son milieu familial, entre guillemets, c'est-à-dire contre le destin qui lui était proposé et dont il ne voulait absolument pas. Puis il est rentré en résistance de manière plus évidente pendant la guerre. Il y rejoint quand même un réseau qui s'appelle Confrérie Notre-Dame. Il est arrêté une première fois en 41 à Marseille, et il est arrêté à nouveau en 42 et transféré à Fresnes. Là, lorsqu'il va écrire Miroir de la Rédemption et qui est précédé de ses poèmes qui s'appellent Et Nunc, qui sont des poèmes donc qui sortent grâce à des complicités avec le linge sale, il a un désir de témoigner de la douleur de la France, bien évidemment, mais il le fait presque en décalage. Ce qu'il écrit dans ce Miroir de la Rédemption n'a rien à voir avec cette réalité-là, mais plutôt avec une réalité profonde qui est « qu'est-ce qui fait que je suis là ? Qu'est-ce qui me maintient en vie ? Pourquoi est-ce que je combats ?» Et on n'est pas non plus dans une espèce d'éloge patriotique. Non, c'est vraiment quelque chose qui lui vient de l'intérieur, une force vitale. Et cette force vitale, pour lui, ne passe que par les mots et par la poésie.
J'ai été arrêté trois fois, mais la troisième fois, ça a été la bonne,
oui.
Si je peux dire.
Oui.
Alors, elle m'a amené à Fresnes. Et alors là, c'est une chose extraordinaire. Moi, j'étais au secret et donc je ne pouvais pas communiquer. Mais on arrive à communiquer. La parole oui. étant devenue une chose extraordinaire. À ce moment-là, je ne pouvais pas avoir de livre. Mais j'avais besoin brusquement oui. de la littérature. Comment faire pour en avoir? J'ai pu avoir d'abord un sac de papier sur lequel il y avait écrit « Épicerie générale de luxe », etc. Et alors, j'ai mis ce sac de papier devant moi, comme si j'avais découvert, comme un primitif, découvrirait oui. des caractères typographiques. Et je regardais ça pendant des heures. Et puis ensuite, un jour, secrètement, on m'a fait passer un livre qui était « Les environs de Paris », avec des illustrations sur Paris. Je regarde le livre qui était en papier glacé, et quand brusquement, je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce papier glacé ?» Je regarde à la lumière oui. rasante, et qu'est-ce que je vois ? 150 à 200 poèmes écrits avec l'ongle. Et c'était les prisonniers de Fresnes qui écrivaient des poèmes et qui communiquaient quelquefois avec leurs femmes par le moyen de ce livre, par des poèmes écrits à l'ongle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. J'écrivais alors avec un clou sur mon mur, mais je savais que j'allais trouver des mines de crayon parce que je sais que les prisonniers... Même le droit commun laisse des mines ah oui. de crayon quelque part dans un trou du mur. Il fallait le trouver. J'ai mis 2 semaines à trouver. J'ai trouvé ce trou dans lequel il y avait des mines de crayon. Et à ce moment-là, j'ai pu écrire vraiment des poèmes. Et j'ai vu à ce moment-là des gens qui n'étaient pas du tout intellectuels et qui, pour se souvenir de leur vie, écrivaient des poèmes de 800 vers. Donc, brusquement, la parole est devenue quelque chose d'essentiel.
C'est ça, oui, de vital.
De vital. C'est ça qui est extraordinaire.
On meurt si on ne peut plus parler.
Oui.
J'appartiens au silence, à l'ombre de ma voix, au mur nu de la foi, au pain dur de la France.
Oui, parce qu'on revoit à ce moment-là comment le plus simple signe, comment le plus simple mot se recharge immédiatement de toute une vie. Et finalement, c'est ça aussi la littérature.
C'est ça la littérature.
C'est ça.
Mais bien sûr.
Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration.
Quand il arrive à Mauthausen, je crois qu'il va dire à un moment donné qu'il aborde ça comme un lecteur de Kafka. Et donc, il rentre dans la colonie pénitentiaire. Il ne se fabrique pas quelque chose qui n'existe pas, il ne se rattache pas à des souvenirs. Non, il prend les choses au jour le jour, profondément. Et puis, on le met dans des travaux très durs, il travaille à la carrière... Il dit d'ailleurs que lui et le marteau picor forment une seule et même chose. Alors on le surnomme, et c'est un monsieur, enfin il est extrêmement fragile. Là-bas, je crois qu'on le surnomme Canary au camp. Et Canary, ça fait penser à ce petit volatile jaune que les mineurs descendaient dans les mines pour vérifier qu'ils pouvaient encore respirer.
Et il y a un jour, et ça il le raconte dans son livre, il était une fois Jean Cayrol, parce qu'il a fait son autobiographie, que c'est le père Grobert. Qui était résistant allemand et qui est arrivé un jour avec une marmite pleine de purée et qui a dit à Jean « Mange, faut que tu manges ». commence à lui parler de Dieu, de l'espoir, de la foi. Il dit non, tu manges, il n'y a que ça qui compte pour l'instant. Et alors donc pour lui, ça a été le début du sauvetage, quoi.
Et puis arrivent tout un tas d'autres gens, dont le père Jacques du prieuré d'Avon, que beaucoup ont connu à travers le film Au revoir les enfants. Donc cet homme qui a sauvé des enfants juifs et qui se fait qui est déporté. Et lorsque le père Jacques arrive à Guzen, il reconnaît Jean Cayrol comme étant le poète, ce Jean Cayrol. Et il dit aux co-détenus « Vous avez là un grand poète. »
À chaque jour suffit sa nuit.
Et quand on a su que j'étais écrivain, on m'a obligé à écrire. On m'avait passé du papier, une mine de crayons, et j'ai écrit environ 150 poèmes à Mauthausen et à Guzen, que j'ai toujours, que je n'ai jamais publié.
À chaque plaie suffit sa lance. À chaque dent suffit son fruit. À chaque mort, notre silence.
Et alors, ce qui était extraordinaire, la complicité de ceux qui étaient autour de moi. Pour que je puisse écrire, on me mettait sous une table, par exemple, n'est-ce pas? On me disait, écris ton poème. Quelquefois, je dis comme ça, j'ai pas envie d'écrire. Écris ton poème, écris quelque chose.
Et alors, tu es là pour ça.
Tu es là pour ça. Et alors, j'écrivais mon poème. Et puis, pendant ce temps, il surveillait l'arrivée des SS. Il m'est arrivé une histoire incroyable. Un matin, nous étions tous réunis dans une espèce de bureau. Et puis, brusquement, le SS le plus dangereux du camp, qui avait 22 ans, mais vraiment le plus dangereux, qui abattait les gens, est arrivé derrière moi, a passé sa main dans une poche intérieure que j'avais commissionnée et a retiré le carnet de poésie que j'avais écrit. Puis il s'est éloigné, il était environ 150 là à ce moment-là, et tout le monde a dit « Cayrol va être abattu ». Moi aussi je pensais. Et ça a duré à peu près 20 minutes. Le SS s'est mis dans un coin et a lu tous les poèmes. C'était le plus dangereux. Puis il est revenu vers moi, il m'a remis le livre de poèmes. J'ai été sauvé par ces poèmes.
Un dieu rêve dans le grain. Et la douce aurore arrachée au premier baiser de la fin. Qui me croira? Je suis caché.
À l'intérieur de Mauthausen, on s'est aperçu que peu à peu, par la dénutrition, on arrivait à perdre les mots. Alors, nous sommes réunis à plusieurs pour dire comme ça, essayons de trouver des jeux qui nous permettraient de ne pas perdre la mémoire des mots, de ne pas perdre le langage. À ce moment-là, il fallait que quelque chose prenne la place du langage. Suffit les rêves. Comme il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de crayon ou stylo, tout ce que vous pouvez imaginer, c'était simplement ce qui était autour d'un camp qui pouvait être extraordinaire.
Oui.
Le moindre petit bout, je ne sais pas moi, de caillou ou quoi que ce soit, impressionnait les gens. Et vraiment, ce que j'ai raconté dans Lazare parmi nous, c'est vrai. J'ai vu un matin, les montagnes étaient dorées, illuminées par le soleil. Et c'était tellement beau, cette neige étincelante autour du camp, que 10 000 prisonniers se sont arrêtés et ont regardé cette image splendide et fabuleuse qui s'est trouvée devant eux.
C'était un homme qui revenait. Tout un dieu chantait en lui, un buisson d'oiseaux dans ses mains, un œil léger et sans sommeil, la bouche gourmande et son pas qui faisait retourner les bêtes.
Je suis toujours fasciné par les objets. Quand j'étais dans les camps, j'étais fasciné, comme j'ai toujours dit, par une coquille d'œuf brisée que j'ai trouvée par terre. Et là-bas, je me suis dit, eh bien, puisque c'est ainsi, j'aurai des objets pour regarder.
Il était si lourd dans l'ombre, mais si frêle dans le soleil, se levant tôt, pesant à peine, et sa voix prête dans sa gorge comme un beau jus de groseille.
Alors quand je suis revenu, j'étais obligé de refaire ma place. Et toutes mes recherches et toute mon aventure, aussi bien mentale, psychique que littéraire, a été, si vous voulez, la recherche de savoir où se trouve mon lieu de naissance. C'est ça qui est une chose curieuse. C'est que quand je suis arrivé le premier jour chez moi, et que j'ai sonné pour rentrer chez moi, c'est mon père qui m'a ouvert et qui m'a regardé, qui m'a dit « Vous le désirez ».
C'était un homme qui revenait. Il avait ses papiers en règle et personne ne l'a ramené.
J'étais un peu exceptionnel. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça autour de lui? J'étais, disons le mot,
et quelqu'un l'a employé, dont je tairai le nom. J'étais contaminé.
Il va aussi faire un roman. Et là, le roman vient comme en relais aussi de, oui. de la poésie. Et c'est une manière de communiquer.
Oui. Je vivrai l'amour des autres. Oui, qui a eu le prix Renaudot en 47. Effectivement. Mais c'est un peu grâce à Jean Carrive qu'il a sorti ses poèmes.
Traducteur de Kafka.
Oui, c'est ça, traducteur de Kafka. Et il l'a beaucoup aidé justement à sortir cette voix. Et le roman, avec ses personnages qui sont toujours dans l'errance un petit peu, qui sont entre deux mondes, qui ont du mal à vivre, à s'incarner. À...
On croirait les gens du Nord froids et indifférents. Eh bien, j'ai trouvé de fort jolis sentiments.
Tous ces personnages, après, vont être comme ça, flottants, pas du tout fixés sur la terre.
Il y a un noyau fort riche. Je suis devenue antiquaire. C'est un ami qui a eu l'idée de vendre un appartement. Il n'y avait pas de magasin convenable pour présenter des meubles, des murs en ciment, des vitrines trop grandes. Vendre chez soi, paraît que c'est mieux. C'est pas les gens ont l'impression qu'on vend des meubles de famille, qu'ils font de bonnes affaires. Je suis en rapport avec de nombreuses familles dont je me fais vite des amis.
Il faut nous embrasser, Hélène. On dirait que je vous fais peur.
Oh, tout ça est si brutal. Demain.
Je crois qu'il est tenaillé par le comme beaucoup de gens qui reviennent des camps, à la fois par l'impossibilité de dire. Et la nécessité de parler, ou l'impossibilité de parler et la nécessité de dire, plutôt. Et « Je vivrai l'amour des autres » est l'expression de ça. Son personnage Armand, on comprend qu'il revient des camps. C'est pas si évident que ça, de but en blanc, c'est au fur et à mesure de l'avancée dans la lecture qu'on comprend ce qui s'est passé et comment il est. Et c'est cette manière aussi, je crois que l'écriture romanesque, c'est avoir le prendre le pas de ceux qui vont on ne sait pas où. Il suit ce pas-là.
La mort, l'enfer, le néant, l'horreur.
Il est issu d'une multitude et il a le sentiment que cette multitude souffrante, difficile...
Je voyais la mort de l'homme.
Ceux qui sont sortis des camps, il faut porter quelque chose de l'ordre d'une voix.
Je voyais qu'il fallait absolument s'occuper de l'homme avant qu'il ne disparaisse. Je ne sais pas dans quoi, mais dans ces ténèbres, dans ce mutisme. J'avais très peur du mutisme, qu'on ne pourrait plus parler à un certain Maufrigneuse.
Mais alors, quel est le mythe que vous avez choisi ou quel est le personnage?
Le personnage qui m'a certainement le plus intéressé, c'était Lazare.
Lazare, dit Jésus, lève-toi et marche. Et les gens autour du Christ disaient, Seigneur, ça fait 3 jours qu'il est enterré, il commence à sentir, ne l'appelle pas, ça va être intenable. Jésus continue, Lazare, viens à la lumière.
Didier Decoing, écrivain et scénariste.
Et donc, Carole a émergé de sa nuit, de son néant. C'est un ancien mort. Et il est revenu à la vie, et il l'a trouvé belle comme le nouveau-né devrait la trouver belle en ouvrant les yeux pour la première fois. Et c'est ça, Carole, c'est l'ouverture des yeux. C'est l'ouverture des oreilles pour entendre le monde. C'est l'ouverture de la bouche pour goûter le monde. Il mord à pleines dents. C'est un Lazare très sensuel que le Lazare de Carole.
Qu'est-ce que c'est le bonheur quand on a vécu ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que c'est la douceur quand on a vécu ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que c'est l'espérance quand on a vécu ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que c'est la gaieté quand on a vécu ce qu'il a vécu?
Éric Orsenna,
je le vois,
écrivain, académicien français.
Extraordinairement fragile. Alors, il a une vaillance magnifique, une élégance formidable, mais il est détruit en partie. Comment ses dents terribles, il mâchait, il se masquait sans arrêt quand il parlait, parce qu'il avait honte de ses dents, alors que c'était un homme de parole. Et donc, très attention à ce qu'on disait. Pas trop d'émotions non plus, parce que il se méfiait de ses émotions. C'est l'être le plus fragile que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'est-à-dire que si j'avais osé l'embrasser, j'aurais mis mes bras au loin pour ne pas que mon affection infinie ne l'étouffe. il y a l'essence de l'humanité qui est sortie dans un petit corps qui était là. Et donc, et cette invraisemblable générosité, fantaisie, liberté, c'est-à-dire il s'évade sans arrêt. Il s'est sorti des camps, mais tout est camp. C'est-à-dire un roman, c'est un camp. Et qu'est-ce que la poésie ? C'est évidemment sortir de tous les cadres. La poésie n'a pas de cadre. Et même quand il choisit le roman, quand il y a toute sa suite, histoire d'une forêt, d'une maison, etc., c'est extraordinaire. Il sort par la fenêtre, par la porte, il sort sans arrêt de l'histoire. Il sort sans arrêt. On ne le retient pas. On ne l'assigne à rien. La seule façon de ne pas être emprisonné de nouveau, c'est d'être insaisissable.
Il parlait de son expérience de déporté ou...
À moi, jamais. Jamais. C'est pour ça que, quand il y a eu la possibilité d'éditer dans une toute petite collection que j'ai eue pendant un moment donné chez Fayard, Nuit et Brouillard, j'étais mais dans un état d'émotion absolue. Parce que si on peut prendre le tout début, les premières pages, c'était donc une collection qui est à la demande de Claude Durand. Et quand on dit ça, c'est un texte admirable. Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des boissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration.
Et c'est alors que Nuit et brouillard devient non seulement un exemple sur lequel méditer, mais un appel, un dispositif d'alerte contre toutes les nuits et tous les brouillards qui tombent sur une terre qui naquit pourtant dans le soleil et pour la paix.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, plus et mères tremblant en ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.
La fuite à la reine.
C'est très simple. J'ai reçu un soir un coup de téléphone du producteur Anatole Dauman qui me demandait de faire un film sur les camps de concentration. Et bien entendu, j'ai refusé parce que je trouvais qu'il fallait que ce soit fait par quelqu'un qui avait vécu la déportation. Et on en est resté là, je pense, pendant une bonne quinzaine de jours, quoi. Et puis, poussé certainement par un de ses amis et un de mes amis, Frédéric de Tovarniki, il est revenu à la charge et j'ai accepté de le rencontrer pour lui exposer les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas faire ce film. Et il n'a pas eu l'air convaincu, en tout cas, par les arguments que je lui ai apportés. C'était un film qui était une commande du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dirigé par M. Henri Michel et Mme Olga Wormser. Et j'ai été voir l'écrivain Jean Cayrol, que je connaissais comme ami de Chris Marker et comme habitant, disons, de l'hôtel des éditions du Seuil, et que je rencontrais donc fréquemment dans les escaliers, et je lui ai parlé de ce problème, et je lui ai dit, si vous acceptiez, vous qui avez connu la déportation, si vous acceptiez d'écrire le commentaire, peut-être que je pourrais repenser au problème.
Pour lui, c'était Cayrol et personne d'autre. Et Jean, il a fini par accepter, quand il a vu les images du film. On lui a demandé d'écrire, effectivement, sur ces images. Et il a eu beaucoup de mal. Il s'est renfermé sur lui-même, s'est mis à pleurer, il n'y arrivait pas. Et Chris Marker l'a aidé. Il l'a mis sur la voie d'une manière très amicale, très affectueuse même. il avait publié Marker, Kerol. Et ça s'est passé un petit peu même en dehors de René. C'était vraiment Chris Marker et Kerol, ensemble, dans la salle de montage.
Trinquelot, verrouillé. Entassement des déportés à 100 par wagon. Ni jour, ni nuit, la faim, la soif, l'asphyxie, la folie. Un message tombe, quelquefois ramassé. La mort fait son premier choix. Un second effet à l'arrivée dans la nuit et le brouillard. Aujourd'hui, sur la même voie, il fait jour et soleil. On la parcourt lentement. À la recherche de quoi? De la trace des cadavres qui s'écroulaient dès l'ouverture des portes? Ou bien du piétinement des premiers débarqués poussés à coups de crosse jusqu'à l'entrée du camp, parmi les aboiements des chiens, les éclairs des projecteurs, avec au loin la flamme du crématoire, dans une de ces mises en scène nocturnes qui plaisaient tant aux nazis?
Quand le documentaire est paru même avant sa sortie, il y a eu plusieurs polémiques, plusieurs entraves. Quelles étaient-elles?
Il y a eu l'histoire du képi, hein, parce qu'au début du film, il y a la gare de triage qui se passe en France. Il était hors de question qu'on admette qu'il y ait eu un camp de concentration en France. C'était Pithiviers. Il y avait donc un gendarme français avec un képi très très reconnaissable. Et on a été obligé de gommer le képi parce qu'il n'était pas question qu'on admette que ça se passe en France. Ces années-là, on voulait absolument oublier, on voulait pas entendre parler. C'était l'époque de la grande réconciliation franco-allemande. Quand le film est passé au Festival de Cannes, ce képi avait été effacé. Ça a été corrigé après, bien sûr. Kerol a été un de ceux qui ont tenu absolument à témoigner tout ça. C'est grâce à René, en fait, qu'il a pu entrer dans Cénacle, finalement, où il y avait assez peu de monde, d'anciens déportés qui ont témoigné. Il y a Primo Levi, il y a Anthem, Jorge Samprun, Kerol.
Rousset.
Oui, pas beaucoup d'autres.
Vous me donnez la transition. On va parler du cinéma.
Oui.
Le poète devient romancier et le romancier devient cinéaste.
Nous errions dans des musées qui abritaient encore un enseignement périmé. Oiseaux empaillés, quadrupèdes ayant perdu leurs poils, énormes oursins sous globe, greniers. Bref. Tout un 19e siècle qui vivait sur des principes pédagogiques comme les cinq continents, les quatre âges de l'homme. Le bric-à-brac ne nous laissait pas d'indifférents. Devant un savoir ancien, c'était toujours le même but que nous poursuivions, redonner vie afin qu'un soulier perdu dans une poubelle fasse partie de notre patrimoine. Le concentrationnat m'avait appris à ne rien laisser de côté. L'homme est vivant dans ses restes. Je réalisais avec Alain René un long métrage, Muriel. 2 ans d'efforts, de travail, de création. Je racontais un fait divers, authentique, avec des relents de la guerre d'Algérie. Ce qui me passionnait, c'était de faire comprendre à tous le mécanisme du retour. Comment revient-on d'un drame, d'une passion? Dans quel état? Pour quelle raison?
Alors, Claude Durand, il y a eu la période Alain René, il y a eu la période Claude Durand. Donc, vous avez suivi très attentivement l'élan de Jean Kerol vers le cinéma. Et dans le texte que l'on vient d'entendre, et qui est de Jean Kerol et qui est extrait de son autobiographie publiée au Seuil, Il était une fois Jean Kerol, on s'aperçoit qu'à côté du domaine de fiction, il y avait aussi le goût pour ces objets apparemment sans signification.
Oui,
apparemment.
Il faut se replacer à cette époque, les écrivains étaient aussi à la recherche de nouveaux moyens d'expression, et Kerol n'a pas été le seul. Vous avez vu, Duras a fait du cinéma, Robrier continue d'en faire. Donc il y a une certaine fascination pour cet art nouveau qui est en train d'être plus facile aussi. On a des caméras plus légères, on peut déjà presque parler de caméras stylo.
devait pas être son vrai nom. On était bien cinq autour d'elle. On discutait. Il fallait qu'elle parle avant la nuit. Robert s'est baissé, elle a retourné. Muriel a gémi. Il avait mis son bras sur ses yeux. On la lâche. Elle retombe comme un paquet. C'est alors que ça recommence. On la tire par les chevilles au milieu du hangar pour mieux la voir. Robert lui donne des coups de pied dans les hanches. Il prend une lampe torche, la braque sur elle. Les lèvres sont gonflées, pleines d'écume. On lui arrache ses vêtements. On essaie de l'asseoir sur une chaise. Elle retombe. Un bras est comme tordu. Il faut en finir. Même si elle avait voulu parler, elle n'aurait pas pu.
Alors, le cinéma a d'abord fait une première apparition dans votre vie et dans votre œuvre avec Nuit et brouillard.
J'ai travaillé surtout avec Chris Marker. Si j'ai fait du cinéma, c'est grâce à la caméra de Chris Marker et un pied en bois d'Alain René avec lequel j'ai travaillé.
Donc vous aviez déjà vous-même une certaine familiarité avec, avec le cinéma.
C'est très facile comme ça s'est fait. Un jour, Claude Durand est arrivé et nous avons eu la caméra. Et pendant des heures, nous avons étudié, parce qu'on n'avait pas ce que c'était qu'une caméra.
Vous ne pas vous en servir.
Nous sommes partis faire des courts-métrages.
Claude Durand lui-même...
est un très très bon technicien du cinéma.
Alors, après Muriel, le coup de grâce...
C'est mon histoire.
Voilà. Alors, cette histoire, vous n'avez jamais voulu la raconter.
Non, non, mais...
vous la montrez.
Mais je la montre. Et je voulais... C'était un piège. C'était un film piège. Et parce que j'ai été arrêté par un de mes amis... qui m'a dénoncé, et ensuite à la fin il a fait refaire son visage et il est parti
et il a essayé de revenir à Bordeaux comme le héros du film.
Oui, mais sa famille existe encore toujours. Alors je me suis dit, je vais faire un piège avec ce film, Le coup de grâce, qui a été joué par Piccoli admirablement. Et personnellement, j'étais attentif, parce qu'il a eu des premières, j'étais attentif à celui qui sortirait d'une première en larmes. Et à Bordeaux, il y a eu un type qui sortait en larmes du film. Je pense que c'était celui que je voulais atteindre.
Les beaux jours de notre vie sont à ton image. Les uns pleurent, les autres rient, et c'est bien ainsi.
Nos beaux jours, les mots aussi des nuits, sont des demeures.
Au couloir, c'est à droite.
Monsieur Plenech, quand est-ce que vous avez rencontré Jean Kerolles?
C'était à la fin des années 50. J'avais d'abord adressé un recueil de textes à Jean-Paul Sartre, qui m'a fait venir au temps moderne. Il m'a reçu dans un couloir de façon très, très aléatoire et m'a dit c'est pas mal, mais vous auriez tort de continuer. Je les ai envoyés à Kerolles, qui lui, au contraire, m'a très bien accueilli. Quand je l'ai rencontré, je savais pas du tout qui c'était. Je l'ai appris en le fréquentant qu'il sortait des camps de concentration. Et comme on a fait quelques voyages ensemble, il avait des souvenirs très, 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 très violents de ces camps de concentration. Je me souviens que la nuit, on dormait dans des chambres voisines et il se réveillait en hurlant parce qu'il avait des souvenirs des camps.
Et c'est l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré.
Les mots aussi sont des demeures. Il faut les rendre habitables. Les restaurer dans leur splendeur première, imposer leur innocence sans prix. Des demeures pour tout le monde, avec ce terrible loyer que nous payons en misère, en combat de toutes sortes, en mensonges.
Quand vous l'avez rencontré la première fois, quel souvenir en avez-vous?
J'ai eu un coup de téléphone de la secrétaire de Quérolles me disant « Est-ce que vous pouvez passer aux éditions du Seuil ? Monsieur Quérolles voudrait vous voir. » Donc je suis allé rue Jacob, dans une petite cour, un bureau qui était au premier étage, avec un escalier assez raide. J'ai grimpé ça, et je suis arrivé dans le pigeonnier où vivait ce pigeon royal qui était Jean Quérolles, qui était comme des pigeons gris. Il était gris. C'est l'homme gris, physiquement, qu'à voir. Et donc, il était au fond d'un grand fauteuil. Il a l'air perdu, ou d'un jouet qu'on aurait oublié. Vous savez, les enfants oublient des jouets. Quérolles était un jouet oublié. Et il m'a fait un grand sourire quand je suis rentré. « Ah, c'est vous, Didier de Coin ?» Il m'a dit, voilà, il va falloir vous me signiez ça. Et il pousse vers moi un certain nombre de feuillets, de papiers, et je lis en tête... Édition du Seuil, contrat d'édition. Ah, je dis, monsieur, c'est affreux, il y a un malentendu terrible. Il me dit, pourquoi vous n'êtes pas Didier de Coin ? J'ai dit, je suis lui, mais je n'ai pas écrit de livre. C'est pas du tout de la littérature, c'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est une lettre à une jeune fille qui ne m'aime plus et que moi je continue d'aimer. Et vous lui avez envoyé ça ? Ben, je lui dis, non, c'est impossible. Il me dit, si elle le trouvait dans les vitrines des libraires de France et de Navarre, comme ça, avec votre nom dessus, elle le lirait pas. Alors, peut-être que par curiosité, elle entrerait, elle regarderait au dos ce qui est marqué. Mais, oui, peut-être qu'elle l'ouvrirait, mais c'est ça que je vous offre. Je vais être votre caisse de résonance, elle va être votre haut-parleur. Et donc, j'ai signé mon premier contrat d'édition. Et là, il y a eu un miracle. C'est que ce livre, premier roman... d'un total inconnu, mais c'était peut-être la magie d'avoir été patronné, parrainé, je ne sais pas comment dire, par Jean Quérolles, ce livre a eu un retentissement assez étonnant.
Jean Quérolles, il voit les pépites, donc c'est un guetteur invraisemblable, tous azimuts de tout ce qui pouvait se faire, justement sans école. Et le plus formidable, c'est que le Seuil, à l'époque, c'est le lieu... de la liberté, donc la négation de l'école, il faut aller voir qui était le patron comme ça. Qui étaient les patrons du Seuil.
Des demeures ouvertes, hospitalières, dont l'accueil n'est pas réservé aux notables d'une poésie secrète, froide, aux aguets.
Le Seuil est né d'une rencontre de Paul Flamand à Jean Bardet. C'était en 1930-35.
Pascal Flamand, fils de Paul Flamand, fondateur du Seuil.
Et ce qui les unissait, c'était un très profond catholicisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Bardet est mobilisé, va en Allemagne et s'évade. Et Paul Flamand n'était pas mobilisable puisque tuberculeux et s'est occupé d'une association de résistance chargée de préparer l'avenir du Seuil d'après la guerre. D'ailleurs, c'est par Emmanuel Mounier et les éditions de la Baconnière et les Cahiers du Rhône que le Seuil a été en 1947 en contact avec Jean Quérolles. Et les éditions de la Baconnière publiaient Les Cahiers du Rhône. Et dans cette collection, Jean Quérolles avait publié Vivre à l'amour des autres. Et le Seuil a publié. Et il a eu le Renaudot en 1947.
Mais à ceux qui connaissent l'usure insensée de la parole et veulent méditer sur une langue souveraine, folle dans sa sagesse, incorruptible, brûlante. Elle a coûté cher sur certaines lèvres têtues, cette joie par les mots.
Alors le Seuil, maison d'abord, maison chrétienne quand même. Bon, on dirait aujourd'hui chrétien de gauche peut-être. Et Jean a pu là donner libre cours à son talent divinatoire, un petit peu de rechercher des écrivains. Et il crée une revue absolument extraordinaire où il recueille les premiers cris des écrivains. Et même, il dit des vagissements. Il faut que ça sorte. Alors donc, ces premiers cris, ça s'appelle Écrire. Voilà, la revue Écrire.
Nous voici dans le petit salon empli de très beaux livres.
et sur un très beau jardin.
Oui.
Une table de travail, une photographie de Philippe Solers.
Oui, j'ai toute l'œuvre de Philippe Solers.
Toute l'œuvre de Philippe Solers.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Et un numéro de la collection Revue Écrire. Écrire 2, premières œuvres, oui, publiées sous la direction de Jean Cayrol aux éditions du Seuil, à Paris, 27 rue Jacob. Alors, dans cet exemplaire, nous avons un texte de Geneviève Dorman, La première pierre, Raymond Mirande, poème, Eva Farago, La ville aux yeux morts, Marcel Plenet, poème. Quel souvenir vous avez de cette...
Excellent. La preuve, je l'ai conservée.
Vous l'avez conservée, vous avez recouvert.
La couverture était toujours une tranche de bois découpée.
Donc vous étiez un jeune poète de 24 ans,
oui,
23-24 ans. Quel effet ça vous a fait de tenir cet ouvrage entre les mains ?
J'étais persuadé que ça ne paraîtrait pas. À partir de ce moment-là, j'y ai vraiment cru.
Vous savez que ça a commencé d'abord par un petit manuscrit de 16 pages dactylographiées qui était une sorte de nouvelle qui s'appelait Le Défi, que j'ai envoyé à Jean Cayrol qui s'occupe de cahiers collectifs.
Philippe Solers.
Comment avez-vous
écrivain et éditeur.
Eh bien, j'ai détecté Jean Cayrol pour la raison très très particulière, très simple, que il a donc fondé ses cahiers collectifs écrits. Il a fait de la publicité un peu dans tous les journaux, disant que c'était des cahiers qui publiaient des manuscrits courts d'auteurs inconnus, ce que j'étais parfaitement bien entendu. Et il s'est trouvé que je suis tombé sur cette annonce dans un journal quelconque, je ne me rappelle plus lequel, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je viens d'écrire cela, pourquoi pas l'envoyer à Cayrol et voir si, ma foi, il juge ça bon. Et je lui ai envoyé, il l'a publié, enfin...
Et il s'agissait de...
Il s'agissait du Défi, c'était une petite nouvelle de 35 pages, qui fait 35 pages dans le numéro 3 d'Écrire.
L'idée, c'était de publier des auteurs... pas connus, mais sur lesquels ça valait le coup de faire un pari. Mais il y a eu aussi Denis Roche, qui aura sa propre collection de littérature et d'essais, fiction et compagnie. Et Claude Durand, le fils spirituel de Jean Cayrol, a été Claude Durand. Geneviève Dorman aussi, Guyotat aussi, mais par rapport au Seuil aussi, dans le cadre rouge, Jean Cayrol a publié des auteurs, dont Jean-Marc Roberts, dont Didier de Coin, dont Éric Orsenna, qui lui sont restés toujours fidèles. Et Jean-Marc a été aussi un fils spirituel.
Et puis il y a la question de la jeunesse.
Question de la passion de la jeunesse. La passion. Ouais. Et puis la passion de la paternité sans enfant. Être père, de qui ? De qui on est père ? Il y a ça aussi.
Un jour, j'ai tombé sur la révolution surréaliste et un poème. C'était l'île cristal où l'amour ressemble à l'angoisse éteinte au son de la cire, au deuil de l'été. Si j'ai écrit, c'est à cause de ça. Et l'île cristal, c'est mon rêve. Oui, c'est-à-dire que depuis l'enfance, je recherche sur le bord de la plage un morceau d'agate. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Et vous ne l'avez jamais trouvé ?
Je n'ai jamais trouvé. Et alors, si jamais vous venez chez moi à la campagne, vous verrez 4 agates bleues, c'est ma famille.
Mais par tous les temps, un grain de raisin, un peu de lilas blanc. Mais par tous les temps, un pas de facteur, un air raisonneur, la douce impatience. Mais par tous les temps, le droit de me dire « Je peux bien en rire, c'est l'affaire du vent. » Mais par tous les temps, et sans savoir quand.
Lire Cayrol, c'est un peu comme si on plongeait la tête, enfin oui, et le corps d'ailleurs, dans de grands lacs d'eau sombre, et qu'on ouvrait les yeux, et que, une fois qu'on a ouvert les yeux sur ce qui semblait quelque chose d'opaque, on s'apercevait que tout est cristallin, et que on a une vision extrêmement lointaine de tout. Et qu'on y voit, je ne sais pas quoi, les bêtes, les herbes aquatiques, les rochers, et un monde comme ça qui est du dessous, mais à perte de vue. C'est vraiment cette sensation de, oui, lumineuse, claire, profondément claire. Et à la fois de ce premier recueil qui est « Ce n'est pas la mer » qui date de 1935, hein, « Mon Dieu, je suis bien pauvre aujourd'hui », jusqu'au dernier qui est, je crois, « D'une voix céleste », ma foi, on pourrait les lire sans presque faire la césure des titres, comme s'il y avait une espèce de progression. Alors en même temps, bien sûr, il y a toute l'expérience concentrationnaire de Kérol qui marque profondément son œuvre à un moment donné, mais on pourrait dire qu'il y a presque avant une espèce de préscience de cette douleur, et même là, ma foi, il ne s'appesantit pas sur sa propre douleur. Au fond, cette douleur, il en parlait déjà avant, et il va simplement lui trouver une boucle. Ça fait comme dans le décours d'un fleuve.
Car nous marchons ici, mes frères, du même pas que les absents. Quand nous tiendrons dans notre main le premier morceau de pain blanc, quand je tiendrai dans mes deux mains ton premier visage d'enfant, quand nous verrons sur les chemins passer la fille et la moisson, alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants. Alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants. Quand toute une vie prisonnière pourra être mise en chanson, quand nos vergers pleins de lumière auront des fruits dans les saisons, quand nous mettrons dans nos prières les maudits noms de nos prisons, alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants. Alors nous marcherons, mes frères, du même pas que les vivants.
Merci à Didier Decoing, Pascal Flamand, Xavier Houssin, Éric Orsena, Michel Pateau et Marcelin Plenet. Lecture et chant, Catherine Ringer. Extrait des films « Nuit et brouillard » et « Muriel dans la Rennais », « Le coup de grâce » de Jean Kérol. Prise de son, Florent Bujon, Jean-Baptiste Etchepar-Borde et Nicolas Depasse-Graff. Mixage Bruno Mourlan. Archive INA Ingrid Lecointe. Chargée de programme Sandrine Chaperon. Coordination Christine Bernard et Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Capucine Rua, réalisé par Angélique Thibault.